Apprendre plus vite, mieux dormir, modifier son humeur ou prévenir certaines maladies neurodégénératives, nous aurions tous la capacité d'améliorer sensiblement notre cerveau. Les neurosciences ont permis ces dernières années de mieux comprendre comment fonctionne notre cerveau, en donnant également des clés pour exploiter son potentiel. C'est le dossier de l'émission cet après-midi et l'objet d'un livre signé par mon invité, le chercheur Michel de Van Kuyn. Il répondra à toutes vos questions et à vos messages sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Axel Villard, bonjour.
Bonjour Mathieu.
À la une de la science aujourd'hui, des canyons sous-marins, des espaces sensibles qui sont déjà menacés par les activités humaines.
Oui, des scientifiques de 12 pays différents dressent un état de santé des canyons encore mal connu, des refuges pour la biodiversité, protégés des chalutages, mais très sensibles à la pollution. On en discute avec le biologiste marin Lénaïck Menot dans un instant.
Et puis nous retrouverons comme chaque jeudi la chronique de santé polémique du docteur Dupin qui se demande cette semaine à quoi peut bien servir l'Académie de médecine. Stéphanie Texier est aux commandes de cette tête au carré qui a été préparée par Dylan Beiner avec Pierre de Certaine.
La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Améliorer notre cerveau, dossier donc dans quelques minutes avec mon invité et ce livre Améliorer notre cerveau, Michel de Van Kuyn, bonjour.
Bonjour Mathieu.
Livre que vous publiez chez Flammarion. Alors vous dites qu'on assiste en ce moment à des progrès d'une ampleur stupéfiante en matière de connaissances et de performances autour du cerveau. Est-ce qu'une fois encore, comme avec le programme d'entraînement mental du docteur Kawashima, on n'est pas en train de nous vendre du cerveau comme une crème anti-rides?
Non, dans ce cas-là, je pense qu'il y a un peu plus d'efficacité et aussi de preuves scientifiques. La méthode Kawashima, il y a une grande étude en Nature qui a montré qu'en fait, elle ne permettait pas d'une augmentation, une amélioration de l'ensemble des fonctions du cerveau, donc c'est un peu plus difficile. Ce que je rapporte dans mon livre, c'est l'existence en fait d'une véritable révolution dans laquelle des nouvelles technologies commencent à sortir des laboratoires de recherche et commencent à se diffuser dans le grand public. Et tous ces dispositifs promettent d'agir sur le cerveau pour en améliorer le fonctionnement, donc améliorer la mémoire, améliorer la concentration, donc et également aussi le bien-être. Donc je donne dans mon livre un grand panorama de ces différentes nouvelles techniques et je donne des recommandations.
Eh bien, c'est ce qu'on va faire avec vous tout au long de ce dossier, avec les questions bien sûr des auditeurs qui nous rejoignent tout de suite sur le site de La Tête au Carré. Les canyons sous-marins, des refuges à peine découverts et déjà à protéger, donc aujourd'hui à la une de la science. Et pour en parler, Lénaïck Menot, vous êtes avec nous, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes cadre de recherche sur les environnements profonds à l'IFREMER. Vous faites partie du réseau international INCISE et vous présentez donc cette semaine les résultats d'une grande étude sur l'état des canyons sous-marins autour du globe. Alors, on connaît les fosses sous-marines, les canyons un peu moins. Quelle est la différence entre les deux exactement?
Alors, les canyons sous-marins, ce sont des grandes vallées qu'on trouve à des profondeurs comprises entre 200 et 3000 mètres, 4000 mètres, qui se distinguent des fosses qui, elles, vont descendre de 4000 mètres plutôt jusqu'à 10000.
D'accord.
Comment ça se fait, Lénaïck Menot, qu'on découvre tardivement l'importance des canyons pour la biodiversité marine?
Alors, on découvre, on fait sans cesse des découvertes en environnement profond, c'est un environnement qui est difficile d'accès et riche en découvertes chaque décennie, je dirais, à son lot de grandes découvertes. Donc, les canyons, on connaissait leur existence depuis longtemps. On a découvert en particulier aussi grâce au développement de nouvelles technologies comme celle des sous-marins ou des engins autonomes profonds, on a découvert que effectivement c'était des environnements très complexes et très riches, diversifiés d'un point de vue biologique.
Alors vous travaillez dans les canyons du golfe de Gascogne. Que peut-on trouver quand on fouille les canyons, les 300 canyons du golfe de Gascogne et qu'on plonge en dessous de 200 mètres, c'est ça?
En dessous de 200 mètres, c'est ça, oui. Alors on va trouver une succession d'habitats différents, des récifs de coraux, qui sont composés de deux espèces principalement, l'Ophelia et Madrepora, qui sont fixés sur des substrats durs. D'autres types de coraux qui forment pas des récifs, mais qui sont des colonies de gorgones ou de coraux noirs. Des coraux sur des substrats meubles également. Des grands champs d'anémones de mer ou de concombres de mer. Donc une multitude d'habitats différents. Qui se croisent dans ces canyons.
C'est une faune qu'on ne trouve que dans les canyons?
Pas nécessairement que dans les canyons. Mais la particularité des canyons, c'est que, d'une part, elle est généralement plus abondante, Et d'autre part, on trouve dans un espace finalement assez limité une grande diversité de ces habitats, qui autrement sont assez rares.
Alors Lénaïck Menot, justement, avec cette étude-là que vous co-signez avec vos collègues d'ailleurs du monde entier, vous dites qu'à peine finalement on découvre ces canyons, qu'il faut déjà les protéger. Ils sont menacés réellement ?
Alors, ils sont menacés, au même titre que le reste de l'environnement profond, par le développement des activités humaines, l'exploitation des ressources en particulier, que ce soit les ressources naturelles vivantes pour la pêche, ou bien les ressources minérales, ou bien les ressources pétrolières. Une particularité des canyons, c'est quand même comme dans la mesure où ce sont des conduites depuis la côte vers le fond des océans, ce sont des endroits où vont se concentrer certains des polluants, par exemple les déchets qui sont rejetés en mer, certains coulent, et pour ceux qui coulent, on en retrouve beaucoup dans ces canyons.
On pourrait penser que la faune des canyons est protégée de la pêche en milieu profond, vu qu'elle est au fond d'une rigole, au final, c'est pas le cas ?
Alors c'est le cas en partie, c'est le cas effectivement sur les flancs les plus abrupts des canyons. Mais en bordure des canyons, il peut y avoir une pêche assez intensive qui aura des impacts indirects. Alors ça a été montré par des collègues espagnols en Méditerranée, où le chalutage à la périphérie des canyons remet en suspension des sédiments qui sédimentent dans les canyons et vont perturber l'environnement du canyon.
Donc l'interdiction du chalutage profond en Europe qui est rentrée en vigueur à la mi-janvier est une bonne nouvelle pour les canyons en Europe.
Une bonne nouvelle pour les canyons en Europe, oui.
Est-ce qu'il y a d'autres actions en cours qui visent à protéger la biodiversité de ces environnements ?
Alors il y a des actions qui existaient déjà de gestion de la pêche par les pêcheurs eux-mêmes, par exemple sur le retour du canyon du Cap Breton. Et puis il y a des aires marines protégées. Alors il y en a encore assez peu. 10% des canyons au niveau mondial seraient inclus dans une aire marine protégée. En France, il y a une initiative en cours de désignation d'habitats, donc des habitats, des sites Natura 2000, pour la préservation des récifs en environnement profond, et en particulier dans les canyons du Golfe de Gascogne et de Méditerranée.
Lorsque justement vous envoyez vos robots dans ces canyons, quel type de pollution est-ce que vous observez exactement, Lénaïck Menot ? Qu'est-ce qu'on retrouve alors dans ces environnements ?
Alors, la pollution qu'on voit, ce sont beaucoup de déchets, et parmi ces déchets, beaucoup de plastique. Ce sont les plastiques qui dominent. En particulier au large des grands fleuves, pour le peuple de Gascogne, c'est au large de la Loire et de la Gironde. On retrouve également des déchets qui sont liés aux activités de pêche, donc des filets, des câbles, et on retrouve des bouteilles de verre qui, elles, probablement viennent des activités maritimes. Même s'il y a maintenant des interdictions de rejet en mer, ces interdictions sont assez récentes, et donc on trouve des déchets qui viennent en particulier le long des grandes lignes de transport maritime.
Allez, une dernière question, Axel.
Oui, à part le golfe de Gascogne, sur les côtes françaises, où est-ce qu'on trouve d'autres canyons ?
En Méditerranée, on trouve en Méditerranée un certain nombre de canyons. Assez différents les uns des autres, comme dans le golfe de Gascogne d'ailleurs, on peut quasiment considérer parfois que chaque canyon est unique. Des canyons qui sont connectés à une rivière telle que celui du Var, à d'autres canyons qui sont complètement déconnectés de la côte.
Merci beaucoup Lénaïck Menot, et puis c'était une occasion aussi pour nous de faire mieux connaissance avec ces écosystèmes qu'on connaît peut-être un petit peu moins bien et qui méritent toute notre attention et donc des mesures de protection, puisque c'est ce que vous dites en substance dans cette publication avec vos confrères. Merci beaucoup à vous, et Axel, on se retrouve
demain
vendredi. Allez, en bref,
au revoir.
Dans le reste de l'actualité scientifique, la marche pour la science aux États-Unis et dans le monde qui va défiler le 20 22 avril, suite à la suppression d'archives scientifiques de sites gouvernementaux et l'imposition d'un droit de regard politique sur la publication scientifique publique, une marche pour la science s'organise. Annoncez donc, retenez la date pour le 22 avril, des dizaines de manifestations sont d'ores et déjà prévues à travers les États-Unis et le reste du monde. Les organisateurs appellent à mettre la science au service du bien commun et à l'élaboration de politiques basées sur l'intérêt public. Des marches seront prévues à Paris également, nous vous tiendrons bien évidemment informés. Connaissez-vous le plus gros fruit du règne végétal? Eh bien, il s'agit du cocofès et il est en voie de disparition. Officiellement dénommé coco de mer, ce fruit, surnommé d'après sa ressemblance avec notre postérieur, pourrait bien disparaître selon l'Union internationale pour la conservation de la nature qui compte à peine 8000 cocotiers restants. Cette noix de plusieurs dizaines de kilos est victime du braconnage. La faute aux vertus soi-disant aphrodisiaques qui lui sont attribuées en Asie équivaut à ce fruit de se négocier plusieurs centaines d'euros le kilo sur le marché noir. La peur du prédateur renforce la cohésion chez les guppies. Selon une étude réalisée par des scientifiques britanniques et caribéens, ces petits poissons tropicaux développent des liens sociaux plus forts lorsqu'ils font face aux prédateurs. Les chercheurs ont aussi constaté que si en présence d'un danger, les guppies tentent à se réunir, les groupes formés sont plus petits qu'à la normale. Ce serait le fruit d'un compromis entre les avantages d'un grand groupe et ceux liés à la qualité des liens entre les individus du groupe. Et puis l'instinct, une plongée dans l'inconnu, c'est l'intitulé d'une conférence qui aura lieu le 9 février prochain à l'Université Paris-Dauphine. Elle réunira Luc Jacquet, le réalisateur du film L'Empereur, la compositrice-interprète Annika-Anne de Forest, le biologiste Gilles Boeuf, le physicien Joël Chevrier et la psychanalyste Florence Lautredoux. L'événement est gratuit, il est ouvert à tous à condition de vous inscrire et vous retrouvez toutes les informations sur ce rendez-vous autour de l'instinct sur la page Facebook de La Tête au Carré. Ce sera donc le 9 février, la semaine prochaine. Allez, on va tenter d'améliorer notre cerveau dans un instant avec mon invité Michel Vanken qui publie ce livre aux éditions Flammarion. You better watch out if you wanna survive. Listen to me or just step aside. Keep your eyes peeled if you want to survive. A lot of men didn't and a lot of men died. Fields and the Expressions avec Make the World sur France Inter.
La tête au carré, l'actualité des sciences sur France Inter.
Et on va parler du cerveau donc cet après-midi avec vous, Michel Van Kuen. Vous êtes notre invité à l'occasion de la sortie de votre livre « Améliorer son cerveau ». C'est chez Flammarion. Vous êtes chercheur à l'INSERM où vous dirigez un groupe de recherche à l'ICM. Ça, c'est l'Institut du cerveau et de la moelle épinière à la Salpêtrière. Et les auditeurs nous rejoignent avec les messages et les questions sur franceinter.fr et le mot-clé « l'attaque ». Quelles sont d'ailleurs les recherches là que vous menez, vous, en particulier à l'ICM?
Non, justement, donc je suis très intéressé par les relations entre la technologie et puis les neurosciences. Donc, en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, il y a une sorte de révolution dans laquelle beaucoup de technologies, en fait, se développent dans les laboratoires et commencent à quitter les laboratoires pour se diffuser dans le grand public. Donc, ce que je fais beaucoup à l'ICM, c'est d'évaluer ces technologies, de voir de manière si elles sont efficaces, elles sont aussi néfastes pour le cerveau. Donc, il y a tout un travail ici à mener sur l'efficacité de ces différents dispositifs.
Ce sont des technologies qui justement sont utilisées aujourd'hui à l'hôpital, par exemple, ou pas?
Donc, effectivement, beaucoup de vieilles technologies d'enregistrement de l'activité cérébrale, de modulation de l'activité cérébrale, sont depuis longtemps utilisées dans les laboratoires. Mais effectivement, ces technologies commencent à en sortir. Beaucoup d'industriels sont intéressés par ces technologies. Donc, ça commence à quitter le laboratoire et je pense qu'il y a un certain nombre de dispositifs particulièrement intéressants, efficaces. D'autres, je suis un peu plus réservé au niveau de leur diffusion grand public.
Ouais. Est-ce que ça bouleverse aussi les pratiques des médecins, au fond, de voir arriver ces nouvelles technologies comme support thérapeutique, quand même, hein, de certaines pathologies?
Oui, exactement. Donc, je travaille en particulier dans le domaine de l'épilepsie. Donc, le problème de l'épilepsie, c'est que c'est une maladie qui est intermittente, donc une maladie qui ne se manifeste pas tout le temps. Donc, souvent, les patients viennent à l'hôpital, ça dure à peu près une demi-heure, et les médecins peuvent pas voir tous les symptômes de la maladie. Donc, ce qui se passe, c'est que souvent, des années et des années, les patients doivent aller voir les médecins pour vraiment avoir un bon diagnostic de l'épilepsie. Donc, ce qui se développe actuellement, c'est des systèmes qui permettent, par exemple, des vêtements intelligents. Donc, il y a un système qui s'appelle le Neuronaute, qui est développé par Bioserenity, qui est une start-up française, qui développe, en fait, un t-shirt connecté et aussi un petit bonnet. Et donc, l'idée, c'est, en fait, de faire un diagnostic de l'épilepsie en dehors de l'hôpital, donc sur des périodes beaucoup plus longues. Donc, les patients mettent ce dispositif avec ce petit bonnet et donc, ils peuvent aller chez eux sur plusieurs semaines, en enregistrant leur activité physiologique, l'activité cardiaque, l'activité des muscles, l'activité du cerveau. Tout ça, c'est envoyé au smartphone, ou à un téléphone portable, qui est ensuite envoyé sur un réseau. Et on a différents algorithmes qu'on est en train de développer actuellement qui extraient des informations liées à l'épilepsie. Et ça permet aux médecins de mieux poser leur diagnostic.
C'est donc ça, ça permet d'avoir une précision vraiment sur la pathologie
donc
de la personne.
C'est vraiment une nouvelle forme de médecine dans laquelle, en fait, toutes ces, ce qu'on appelle les new wearables, donc ces nouvelles technologies au plus proche du corps, sont utilisées dans la médecine pour mieux poser les diagnostics, pour suivre l'efficacité des traitements, pour également voir des facteurs de risque. Dans le cas de l'épilepsie, il y a beaucoup de facteurs de risque, mais également aussi de faire participer le patient lui-même, parce que par l'intermédiaire de son téléphone portable, il peut avoir un accès à ces informations biologiques et ils peuvent dire, bon, mais il faut que je prenne des contre-mesures, actuellement c'est pas une très bonne journée pour moi. Donc ça responsabilise aussi beaucoup le patient lui-même. Donc c'est une nouvelle forme de médecine, après moi. Les santé, on en parle beaucoup, et où cette médecine des 3P, donc la médecine préventive, prédictive et participative. Donc c'est une nouvelle forme de médecine.
Mais alors ça sert vraiment à mieux soigner les patients, ce dispositif technologique par exemple?
Ça permet en tout cas de récolter plus de données, d'aider les médecins, et donc ça permet de récolter des données en dehors d'un contexte un peu artificiel qui est parfois l'hôpital. Donc les patients sont chez eux, donc ça permet de se rapprocher des conditions les plus proches de la vie quotidienne.
Oui, mais est-ce que ça soigne mieux? Parce que c'est quand même ça le but de l'opération, ici, parce que c'est quand même contraignant pour le coup de porter ce vêtement sur plusieurs semaines. Il faut vraiment qu'il y ait des résultats.
Exactement. L'objectif, c'est de mieux poser le diagnostic. Donc, on peut, de manière plus précise, poser le diagnostic. Ce qui nous intéresse aussi également, c'est de développer en fait un certain nombre de procédures qui permettent de prédire les crises, donc de détecter les crises à l'avance. Donc, ce type de système envoie les données en permanence, et de certaine manière, on peut prévenir les patients aussi avant que la crise ait lieu. Donc, c'est ce genre d'objectif qu'on est en train de travailler.
Alors ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, parce qu'on parle de l'épilepsie, mais justement, votre livre passe en revue toutes les technologies au service de la mémoire, de la concentration, du sommeil, extrêmement important dans la vie d'un individu, de l'humeur également. Donc ça, ce sont des recherches au départ, évidemment, qui sont menées, et on voit bien les ponts entre la recherche fondamentale et puis aujourd'hui les applications directes. Ça y est, là, on y est. Les passerelles sont bien établies.
Les passerelles commencent à se mettre en place. Donc les produits sont déjà disponibles, mais vont être sur le point de l'aide dans quelques mois. Donc, il y aura une véritable vague d'innovations technologiques qui vont apparaître.
Ouais.
Donc, c'est effectivement, ces technologies sont pratiquement prêtes. Certaines, à mon avis, la diffusion large public est plus prématurée, et je vais donner tout à l'heure un peu des exemples. Mais ce qui est important à dire, c'est que ce sont des technologies qui ne sont pas des puces dans le cerveau. Donc, ce sont des technologies qu'on porte la plupart du temps comme un chapeau. Donc, vous avez un bandeau ou alors un casque que vous mettez sur votre tête, mmh, avec des petits senseurs qui enregistrent l'activité du cerveau. Tout ça est envoyé à un smartphone, c'est piloté par un smartphone. Donc, ce sont des objets connectés. Et donc, ça permet un usage à domicile, un usage même dans les transports en commun, si on le veut.
Ouais.
Donc, c'est ce genre de système qui sont mis en place. Donc, il y a beaucoup ensuite de champs d'application de ces systèmes.
On verra évidemment les limites aussi de ces technologies, voire aussi les dérives ou les dangers, parce que quand elles sortent justement de la sphère médicale vers le grand public, on va voir comment on peut les utiliser au mieux. Parce que quand même, il y a quand même un marketing autour des neurosciences qui est assez phénoménal aujourd'hui. Il y a beaucoup d'attentes, de promesses, et on sent qu'il y a quand même un business autour de cette science, hein, qui se crée.
Oui, effectivement, certains parlent de neurocharlatanisme, donc je pense qu'il faut être assez prudent, voir véritablement, de faire la part des choses, aussi dans le domaine de l'amélioration du cerveau, c'est important de se débarrasser un peu des sortes de fantasmes de transgression, donc, qui accompagnent un peu ces technologies. Souvent, l'amélioration est minime, hein, c'est pas des améliorations. Donc, on n'a pas des super pouvoirs avec ces technologies, donc tout ça doit être mis dans un contexte quand même très, très réaliste.
Et la neuroamélioration, parce qu'on parlait de ce terme tout à l'heure avec Jean-Luc Lebrun, au moment du passage d'antenne, c'est vraiment une discipline qui émerge ?
Effectivement, c'est un champ de recherche. Beaucoup de chercheurs se retrouvent un peu dans ce domaine. Donc, pour moi, en fait, on a tous déjà un cerveau qui est amélioré. Donc, ça résout un peu la question. Mais effectivement, on peut l'améliorer.
Améliorer par rapport à quoi ?
On peut l'améliorer davantage. C'est comme ça que je le vois. Donc, surtout, le cerveau a cette formidable propriété de neuroplasticité. Donc, cette possibilité de se transformer lui-même en fonction des besoins pour acquérir de nouvelles compétences. Donc, c'est pas un organe figé une fois pour toutes à partir de l'âge de 16 ans, mais c'est un organe qui peut s'améliorer. Donc, c'est comme ça que je vois un peu les choses.
Ouais.
La lecture, l'écriture, ce sont des améliorations du cerveau qui ont été développées au cours de l'histoire de l'humanité. Donc, je vois l'amélioration de cette manière.
Ouais. Alors, vous nous rappelez effectivement qu'il y a cette plasticité, hein, découverte au fond assez récemment, puisqu'on pensait auparavant que le cerveau était figé à partir d'un certain âge, qu'on fabriquait plus de neurones, alors qu'on sait le contraire aujourd'hui. Donc, ça s'entraîne, ça s'éduque, un cerveau, c'est très plastique justement, et on peut le renforcer, le muscler à volonté.
Effectivement, on peut. Les travaux, par exemple, de Pascal Lehoun à Harvard ont bien montré, par exemple, pour les musiciens, par exemple, la manière dont en fait le cerveau se transforme en fonction de l'acquisition, par exemple, d'un instrument de musique. Lorsque vous faites du piano, eh bien, la zone de vos doigts, qui représentent les doigts dans le cerveau, en fait, se modifie, gonfle d'une certaine manière. Et donc, effectivement, ça, c'est des choses qui s'entraînent. Donc, comme aussi la méditation entraîne des modifications plastiques du cerveau, beaucoup d'entraînement de l'esprit peuvent entraîner en tout cas des transformations du cerveau.
Et ça vraiment à tout âge, c'est-à-dire que si on se décide à 50 ans d'apprendre le piano, on a toutes les chances de réussir, pour peu évidemment qu'on soit assidu et qu'on entraîne notre cerveau tous les jours.
Oui, à tout âge on peut d'une certaine manière transformer son cerveau. Il y a des études par exemple d'une personne qui s'appelle Adam Gazalet, dont je parle le livre, qui a développé en fait un logiciel pour des personnes âgées. Donc c'est un jeu vidéo que les personnes âgées peuvent jouer. C'est une route, ça s'appelle NeuroRace. C'est une route dans laquelle on voit parfois des panneaux apparaître. Donc c'est une sorte de multitâche. Mm-hmm. Et il s'est aperçu en fait que des individus entre 60 et 85 ans pouvaient encore progresser ce jeu vidéo. Donc ils pouvaient d'une certaine manière même battre des sujets plus jeunes qui n'avaient pas s'entraîné à ce jeu-là.
Bon, donc il faut juste convaincre les personnes âgées de se mettre au jeu vidéo, parce que c'est pas forcément dans la culture de cette génération-là.
Exactement, mais les Wii, par exemple, ont fait leur apparition également dans les maisons de retraite. Donc, c'est quelque chose, l'informatique pour les personnes âgées, quelque chose qui est particulièrement intéressant, d'après moi.
Michel Levenquen, on a l'impression justement que cette idée de la plasticité est très récente. Or, vous nous montrez quand même qu'on a imaginé ça depuis assez longtemps. À partir du Moyen-Âge, il y avait déjà des poètes qui avaient compris que notre cerveau, justement, avait ces capacités de régénération.
Oui, bon, c'est un peu les philosophes qui ont vu en fait que l'esprit humain est quelque chose qui se développe, qui peut se développer en permanence. Donc, Pic de la Mirandole, par exemple,
pour le citer, ouais.
que je cite, est un des poètes qui a chanté en fait l'infinie plasticité humaine. Donc c'est effectivement un peu des précurseurs des neurosciences qui ont vu que rien n'est vraiment inscrit dans le cerveau, tout peut être source de transformation et d'amélioration.
Ouais. Ouais. Et cette idée de perfectibilité, elle a été reprise après, hein, au siècle de Jean-Jacques Lumière Rousseau, aussi. Voilà, ouais. C'est ça, avec les philosophes. Qui justement était en avance sur les neuroscientifiques pour le
Exactement,
coup.
Exactement, hein. Oui, c'est Jean-Jacques Rousseau qui a eu cette idée de perfectibilité. Oui.
Ouais. Le cerveau est donc un muscle, on va voir ça avec vous pour l'améliorer dans un certain nombre de domaines. Michel Van Kuen, vous êtes l'invité de La Tête au Carré. Sommes-nous, et bien sûr la voix d'Alain Bachung à l'instant, dans notre tête au carré, Michel Le Van Kuen, notre invité pour améliorer notre cerveau, l'objet d'un livre chez Flammarion avec ce sous-titre « Oui, on peut l'améliorer, mais attention, pas n'importe comment ». Ce sera l'objet de notre discussion dans un instant. Il y a beaucoup de questions des auditeurs. Avant ça, j'aimerais qu'on écoute juste une illustration justement d'un sujet que vous évoquez, puisque vous faites un peu d'histoire également autour de la plasticité du cerveau. C'est une histoire qui va certainement rappeler des souvenirs à beaucoup d'entre nous, parce qu'en cours de sciences naturelles, certains justement, on fait des expériences sur la grenouille et c'est ce que relate exactement ce qui s'est passé avec ce scientifique Giovanni Aldini.
L'arrière d'une grenouille est posée sur la rambarde de fer, un crochet de cuivre planté dans la moelle épinière. Les pattes se contractent brusquement quand le crochet de cuivre touche les barreaux. Les thèses de Galvani sont applaudies par ses collègues médecins, mais rencontrent un opposant farouche en la personne du physicien Alessandro Volta. Galvani meurt en 1798. Le combat cesse. Une seconde mort attend Galvani 2 ans plus tard. Volta construit la première pile électrique, une alternance de rondelles en métal et de tampons d'acide. Succès mondial. L'électricité est bien métallique. Adieu l'électricité animale. Mais l'histoire n'est pas terminée. En 1828, Leopoldo Nobili invente un appareil capable de mesurer de très faibles courants. Son appareil réagit aux expériences de Galvani. Le savant avait raison, l'électricité animale existe bien. En l'honneur de Galvani, Nobili nomme son invention galvanomètre. Enthousiasme modéré chez les grenouilles.
On imagine. Michel Van Kuen, alors il y avait effectivement Galvani qui était l'oncle d'un autre Italien, Giovanni Aldini, hein, dont vous parlez donc dans cet ouvrage. Pourquoi cette expérience justement a été très importante pour la suite ?
Non, en tout cas, toutes ces nouvelles technologies se basent souvent sur les anciennes observations médicales. Donc une des observations, c'est effectivement l'effet de l'électricité sur le corps, sur l'organisme et sur le cerveau.
Et la stimulation électrique ?
La stimulation électrique en particulier, on va probablement en parler tout à l'heure. Donc il y a toute une histoire autour de l'effet de l'électricité sur le corps. Donc ça a commencé par Galvani, effectivement. Ce qui est plus étonnant, c'est son neveu, donc Aldini, qui était persuadé en fait que l'électricité est une sorte d'énergie vitale qui pouvait redonner la vie à des corps, en particulier morts. Donc comme ce cadavre de grenouille qui a commencé à bouger de nouveau...
Il voulait vraiment réanimer les morts ou pas ?
Il voulait réanimer les morts, bien sûr, sans succès. Donc il a beaucoup essayé, il a fait beaucoup d'expériences très, très morbides, qui étaient en fait de stimuler les cadavres, en particulier de condamner à mort après leur exécution. Donc il y a un cas célèbre qui est George Foster, qui est un criminel qui a été pendu à Londres. Et donc le scientifique Aldini a tout de suite stimulé, juste après la pendaison, le visage de ce pauvre personne, et certains mouvements ont été encore vus comme s'il était en train de vouloir dire quelque chose, en tout cas. Donc il y avait effectivement cette fascination, de ce fantasme que l'électricité pouvait d'une certaine manière renouer des vies. Mm-hmm. Ça a d'ailleurs influencé le roman gothique de Mary Shelley, Frankenstein et le Prométhée moderne. Donc il y a eu toute cette fantasme autour de l'électricité. Il y a eu des services entiers, par exemple dans l'hôpital où je travaille, la Pitié-Salpêtrière, il y a un service d'électrothérapie qui s'est ouvert. Romain Vigouroux et puis Jean-Martin Charcot ont ouvert ce service-là où des centaines de personnes venaient tous les jours aux consultations pour prendre des coups électriques, pour prendre des bains électriques. Donc il y avait des
bains électriques. Mais c'est extrêmement dangereux, non ?
Extrêmement dangereux. Effectivement, ils ont probablement aggravé plutôt l'état des patients que de les améliorer. Oui. Mais néanmoins, effectivement, c'était la base un peu de...
C'est ça. On a quand même appris beaucoup de choses, malgré tout, malgré ces expériences qui balbutiaient à l'époque avec tous les dangers inhérents, évidemment, à ces aventures. Mais la stimulation électrique et la stimulation transcrânienne, par exemple, aujourd'hui, dans le cadre de certaines pathologies neurodégénératives comme Parkinson, elles sont tout à fait reconnues, ces techniques.
Oui. C'est une technique relativement bien connue au niveau des laboratoires. Ça a été popularisé par Walter Paulus, un Allemand, dans les années 90. Donc c'est effectivement ce qu'on appelle stimulation transcrânienne électrique. Alors, au niveau des nouvelles technologies, il y a des startups qui ont repris un peu cette idée. Parce que, en particulier, une startup qui s'appelle Halo Sport, qui est une startup californienne, donc Halo Neuroscience, c'est le nom de cette startup. Et en fait, ils font une sorte de casque audio, donc dans lequel, en fait, à l'intérieur du casque audio, il y a des petits picots qui font des minuscules stimulations électriques. Donc, ce n'est pas des électrochocs.
Ça, c'est pour les sportifs
Effectivement, c'est pour les sportifs. Donc, c'est une sorte de coup d'électricité homéopathique, à dose homéopathique. Et on sait en laboratoire que ces stimulations entraînent une augmentation des performances motrices.
Donc c'est du dopage électrique,
effectivement, c'est une forme de dopage électrique totalement indétectable par les autorités, en tout cas sportives. Et ça pose pour moi un peu le problème cette technologie. Ce qui est aussi relativement peu connu, c'est l'effet à long terme de ces stimulations électriques transcrâniennes.
L'effet à long terme
sur le cerveau lui-même. Est-ce que ça crée des dépendances? Est-ce qu'il y a une certaine manière, il y a ce qu'on appelle un coût cognitif, c'est-à-dire que vous améliorez une fonction, mais il y en a une autre
au détriment d'une autre.
Donc tout ça, c'est totalement inconnu. Donc je suis très réservé par rapport à la diffusion grand public de ce genre de dispositif. Mais
certains sportifs, Michel Levenquen, utilisent ces techniques pour l'entraînement, par exemple.
Exactement. Le casque Halo Sport est utilisé en fait par le camp d'entraînement de Michael Johnson, qui parfaire en fait la forme physique des athlètes de haut niveau. Plusieurs athlètes de JO de Rio en fait de l'année précédente ont utilisé ce casque aussi pendant leur entraînement.
Avec des résultats probants ou pas?
On le sait pas. Ce qu'on sait en laboratoire, c'est que si vous mettez ce casque et vous faites du vélo, vous pouvez pédaler plus longtemps. Donc vous avez pendant un effort qui est plus long avec ce genre de dispositif. Donc on sait qu'il y a un effet quand même qui existe sur le cerveau. Par contre, les effets secondaires, les effets à long terme sont totalement inconnus. Je ne peux pas mettre d'être aussi réservé par rapport à cette technologie parce qu'en fait, ces startups contournent un peu les lois de législation parce que l'amélioration en fait n'est pas un objectif médical. Donc ces instruments, ces dispositifs de stimulation transcrânienne, en fait, ne sont pas rentrent pas dans le cadre des lois de bioéthique de 2004, donc de régulation des objets à but médicaux. Et donc pour moi, c'est un gros problème. Et je pense que c'est très important de faire un débat autour de ces objets connectés de stimulation transcrânienne, et également en fait probablement d'imposer une législation beaucoup plus stricte pour ce genre d'objets.
Avec des méthodes là pour le coup dans le cadre du sport qui sont totalement indétectables.
Totalement indétectables.
Par rapport à d'autres techniques de dopage.
Exactement, c'est totalement indétectable avec.
Jean-Paul demande, puisqu'on parlait de la plasticité tout à l'heure, est-ce qu'elle peut évoluer même si on est porteur de maladies neurodégénératives? Alors chez les gens qui ont Alzheimer, Parkinson, est-ce qu'on a toujours la même fabrication de neurones ou pas?
Non, ce qu'on sait, c'est que ce qu'on appelle la substitution sensorielle, c'est-à-dire que, par exemple, on le voit chez les aveugles, c'est-à-dire qu'une fonction peut en fait en remplacer une autre. Par exemple, une fonction détériorée, eh bien, elle peut être remplacée par une autre. Par exemple, les aveugles qui marchent avec leur canne voient d'une certaine manière avec leurs oreilles, parce que les sons qu'ils provoquent leur permettent d'avoir une perception presque visuelle de l'espace. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la substitution sensorielle, et ça, c'est connu. Donc il y a des phénomènes de compensation qui se font.
C'est comme les colocations chez les chauves-souris, un petit peu, non?
Comme les colocations chez les chauves-souris, vous avez une possibilité de voir avec les oreilles. Il y a quelqu'un qui s'appelle Paul Bagarita, qui a développé aussi des dispositifs pour les aveugles, qui leur permettent de voir avec la langue. Donc vous avez une petite caméra qui filme l'environnement, et ces images sont projetées sur la langue, par exemple. Il y a des toutes petites stimulations qui se font de la langue, et l'aveugle peut avoir une perception de l'environnement par ce dispositif. Donc c'est ce qu'on appelle la substitution sensorielle.
Mais il faut tirer la langue en permanence ou pas?
Ils ont un dispositif dans la bouche, mais on peut aussi utiliser le thorax, par exemple, pour projeter ces images.
Laetitia sur Facebook demande, en réaction à ce bonnet connecté dont vous parliez tout à l'heure, Michel Levenquen, est-ce que les ondes électromagnétiques ne sont pas nocives justement pour le cerveau? Alors, qu'est-ce qu'on sait de tout ça aujourd'hui? Parce qu'on est bombardé d'ondes en tout genre.
Bon, on sait un
la
peu,
science nous dit
on
quoi
sait, on sait un peu, mais on sait pas beaucoup.
Non.
Donc par contre, ces dispositifs, par exemple, les dispositifs de BioSerenity, le Neuronaute, ce sont des vêtements intelligents qu'on garde pendant quelques semaines. Donc c'est pas un usage permanent. On va tout à l'heure parler d'autres technologies. C'est comme un peu la méditation. On les utilise pendant 15 minutes, une demi-heure par jour, et c'est tout. Donc c'est pas un usage permanent pendant des années et des années.
Ouais. Alors sur le sommeil, parce que vous en parlez évidemment, vous dites évidemment à quel point c'est important. D'ailleurs, vous citez une expérience qui a été menée sur des rats, et on voit que la privation de sommeil peut entraîner très rapidement la mort chez l'animal comme chez l'humain d'ailleurs.
Oui, exactement. Donc le sommeil est une nécessité vitale. Donc ça, c'est très important le savoir. Et en particulier une phase particulière du sommeil qu'on appelle le sommeil profond.
C'est ça.
C'est à peu près 20% du sommeil total, et c'est le sommeil le plus réparateur, celui qui fait disparaître la sensation de fatigue.
Et là aussi, on a des outils technologiques qui nous permettraient de mieux dormir profondément.
Oui, il y a effectivement un système qui s'appelle le système Dream, qui est commercialisé par une start-up française qui s'appelle Rhythm, et qui utilise des tout petits bruits pour moduler l'activité du cerveau pendant le sommeil lent. Alors, ce qui est important à savoir, c'est que le sommeil lent, le sommeil profond, le plus restaurateur, est très important pour l'évacuation des toxines. Donc, en particulier pendant toute la journée, vous avez une accumulation de toxines, dont en particulier les fameuses plaques bêta-amyloïdes qui se mettent dans votre cerveau. Et donc, le sommeil, c'est une véritable douche qui évacue d'une certaine manière l'ensemble de ces toxines. Ce qui est important aussi à savoir, c'est que le sommeil profond joue un rôle très important dans le bon fonctionnement de la mémoire. Donc, c'est lui qui permet la consolidation des souvenirs, donc ce qui permet de stocker les souvenirs dans votre cerveau. Donc c'est quelque chose qui est vraiment très important. Souvent avec l'âge, les problèmes de sommeil sont associés avec des problèmes de mémoire. Ouais. Donc le sommeil et la mémoire sont très, très 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 proches. Et donc le système Dream propose en tout cas des petites stimulations auditives, donc des petits bruits, lorsque vous dormez. Donc ces bruits ne vous réveillent pas, mais ça module et ça augmente les ondes qui sont associées à ce sommeil profond. Donc vous pouvez d'une certaine manière améliorer artificiellement ce sommeil qui est le plus réparateur par ces tout petits bruits qui sont synchronisés avec l'activité de votre cerveau. Et donc, en gros, par exemple, on pourrait penser, et avec des effets aussi sur la mémoire. Par exemple, on pourrait penser que si vous voulez vous souvenir d'une belle journée de votre vie, eh bien vous mettrez ce casque et vous pouvez d'une certaine manière mieux vous en souvenir.
Le fixer, en fait, dans la mémoire. Donc, on a testé ce dispositif pour des personnes insomniaques, par exemple.
Non, c'est pas testé dans au niveau des personnes insomniaques, mais nous on l'a testé au niveau de sujets normaux. Effectivement, on voit véritablement bien une augmentation du sommeil lent, de ces ondes lentes du sommeil. Donc, on peut véritablement booster d'une certaine manière le sommeil par des petits sons.
Michel Evancuen, vous êtes notre invité cet après-midi dans La Tête au Carré. Des messages et des questions pour vous, elles arrivent sur le site de l'émission. Je vais vous les transmettre dans un instant. Juste après, Claude Pelgag.
Docteur Guerrier, l'anesthésiste, ça vous dit d'écouter de la musique avant l'intervention? On essaye? Je vous mets les écouteurs. Dites si le volume, ça va.
L'application a été élaborée par des neurologues et en collaboration avec des compositeurs du monde entier. Le but est de provoquer des réactions physiologiques chez les patients.
L'écoute musicale va permettre de décharger des substances qui détendent comme les endorphines. Il y a une réaction physiologique qui s'opère. Les mécanismes intimes ne sont pas encore bien connus, mais on sait que ça touche les structures cérébrales impliquées dans les émotions. On voit qu'il est détendu, fréquence cardiaque basse. Donc c'est un patient qui voulait absolument une anesthésie générale. Il voulait dormir complètement parce qu'il était très anxieux. Et grâce à la musique, on a réussi à transformer cette anesthésie générale en anesthésie locale. Et ça devrait bien se passer.
Michel Le Vanquen, un commentaire, un exemple parmi tant d'autres sur la façon dont on peut stimuler le cerveau dans certains cas, par exemple ceux de l'anesthésie en l'occurrence ici.
Je pourrais parler justement d'un casque aussi qui s'appelle MeloMind. C'est justement l'association de mélodie, donc de musique, et de mind, donc esprit en anglais. Donc c'est un dispositif qui ressemble à un casque audio. Mm-hmm. Donc vous le mettez sur votre tête et vous entendez de la musique. Mais la différence d'un casque audio traditionnel, cette musique est contrôlée par l'activité de votre cerveau. Donc il y a des petites électrodes qui sont derrière le casque et qui modulent l'activité. En particulier, l'activité de la musique est paramétrée sur le degré de relaxation. Donc plus vous relaxez, plus vous avez des ondes particulières dans votre cerveau, très particulières qui apparaissent. Donc le système le reconnaît et la transforme en musique. Donc vous avez, de cette manière, une musique qui vous aide à vous relaxer de davantage. Mm-hmm. Donc ça ressemble un peu à la méditation. On fait des petites séances pendant 15 à 20 minutes par jour. Et donc on apprend, d'une certaine manière, à se relaxer. Et on a aussi tous les bénéfices sur le bien-être, comme la méditation.
Ouais. Ce que vous décrivez, ce sont des protocoles scientifiques, ce sont des expériences qui sont menées, ou est-ce que c'est déjà accessible au grand public?
Non, le casque MeloMind va être accessible dans quelques mois. Donc c'est une start-up française également qui le commercialise. Donc c'est un produit qui est basé sur des expériences scientifiques. Donc c'est deux chercheurs de l'ICEM qui ont fait leur start-up. Mais c'est un produit qui va être disponible dans quelques mois en France.
Anne nous dit, en vous écoutant, j'apprends que les données transmises par des émetteurs situés sur la tête transitent par le téléphone portable. Les données sont-elles accessibles par Google ou par un réseau protégé? Alors justement, ça c'est une bonne question.
Oui, donc normalement dans le cadre médical, ce sont des réseaux sécurisés, donc je pense qu'il n'y a pas trop de problèmes, mais c'est vrai que c'est un des problèmes dans le domaine, c'est ce qu'on appelle la privacité des données. Donc, donc tout ce qui est en fait données personnelles qui ont. Donc c'est effectivement les GAFA, donc Google, Amazon, Facebook et Amazon sont extrêmement intéressés par ce type de données. Donc je parle dans mon livre de ce qu'on pourrait appeler le risque d'ubérisation de nos cerveaux, c'est-à-dire qu'une exploitation un peu de ces données biologiques à des fins commerciales. Donc effectivement, c'est un risque de ces nouvelles technologies.
Oui, à chaque avancée technologique, toujours ces questions éthiques inhérentes et dont il faut se préoccuper parce qu'elles nous concernent au premier chef, mais les enjeux sont très forts. La société est peu informée, quand même, parce que vous disiez, justement, vous dites à quel point ces technologies existent déjà. On n'est pas dans la fiction, on est dans une réalité aujourd'hui qui va très très vite en plus.
Exactement, donc c'est pas la science-fiction, ce sont des dispositifs qui existent, des technologies qui vont être sur le point d'être diffusées. Donc je pense que c'est important de voir celles qui sont efficaces. On a parlé de différentes technologies qui sont simplement une écoute passive du cerveau. Le système MeloMind, par exemple, est un exemple. D'autres dispositifs sont plus agressifs, comme ces stimulations transcrâniennes électriques, que je prends un peu plus avec circonspection.
Ouais. Martine demande, est-ce qu'il y a une plasticité, un apprentissage de la douleur de la part du cerveau?
C'est difficile à dire. En tout cas, la douleur, on peut d'une certaine manière l'apprivoiser par différents types de techniques. Et donc, effectivement, on peut d'une certaine manière s'entraîner à diminuer sa douleur par différents types d'entraînement. Donc, ce que je connais très bien, c'est par exemple l'hypnose, qui est beaucoup utilisée en fait pour réduire la douleur et en particulier donc les composantes émotionnelles de douleur. Vous savez, il y avait deux composantes de la douleur, l'un qui est la composante physique, l'autre côté la composante plus émotionnelle et plus cognitive. Et bien, sur cette composante cognitive et émotionnelle, on a possibilité, par exemple par l'hypnose, d'avoir un effet.
Bill demande, est-ce qu'on sait quelle est l'influence des ondes électromagnétiques sur nos neurones? Alors ça rejoint un petit peu la question qu'on posait déjà tout à l'heure sur la façon dont on pourrait être influencé par ces ondes.
Non, on sait assez peu, disons. Néanmoins, les ondes de très haute fréquence ont probablement peu directement d'effets sur le cerveau. Je pense qu'on le saurait avec tous les téléphones portables.
Mais est-ce qu'on pourrait imaginer que ces technologies, au fond, fabriquaient plus de neurones ou pas?
On ne le sait pas.
Dans la stimulation?
On ne le sait pas. Ouais. On ne le sait pas.
Mais c'est des questions qu'on se pose dans les laboratoires.
C'est effectivement des questions qui sont en cours d'évaluation.
Ouais. Émilie demande, est-ce que vous pourriez nous donner des noms de logiciels de jeu qui permettent une progression du cerveau pour les personnes âgées, justement?
Oui, donc je parlais de ce qu'on appelle le NeuroResa, donc qui va également être commercialisé. Donc c'est Adam Casale à UCSF, donc c'est l'université de San Francisco qui a développé ce logiciel. Donc pour personnes âgées, pour une certaine manière augmenter une certaine manière la rapidité des réflexes chez les personnes âgées.
Oui. Et donc ça passe dans le public déjà?
Donc c'est en phase de commercialisation. Beaucoup de ces produits sont toujours en cours de développement, mais je crois qu'il y a un software bientôt bientôt qui va être commercialisé autour de cette, ce neuro-oresseur. Ouais.
Sophie nous dit sur Facebook, j'ai un neurostimulateur externe avec deux petites électrodes qui se placent sur les cervicales pour traiter mes migraines chroniques. Je gère moi-même l'intensité pendant 20 à 30 minutes. Ça me soulage. Mais pensez-vous que ce soit nocif à long terme? Alors justement, une personne seule face à ces dispositifs, est-ce que ça peut représenter un danger particulier ou pas?
Donc, en fait, l'effet à long terme, comme on l'a dit, sont totalement inconnus. Donc, il y a différents dispositifs, effectivement, qui ont un impact sur l'humeur, par exemple. Il y a un dispositif qui s'appelle Sync, et dont je parle dans le livre, qui vous permet de moduler l'humeur, soit vous calmer, soit vous rendre plus actif. Et néanmoins, l'effet à long terme des années et années d'utilisation est un peu inconnu. Donc, je mets un peu en garde par rapport à ces technologies.
Bon, on manque de recul, hein, quand même. Hein.
On manque beaucoup de recul.
Tout ça est quand même très récent, évidemment, et il nous faut le recul également. De la science. On en discutait un petit peu tout à l'heure, ces programmes d'entraînement cérébraux, ce fameux docteur japonais Kawashima, qui a fait beaucoup d'émules ensuite, hein, ça a été repris dans le monde entier, avec ce but d'amplifier nos capacités intellectuelles. Tout le monde y a cru à l'époque, ça a été vendu à des millions d'exemplaires, et puis il y a quand même une publication dans Nature, vous l'évoquiez, qui a été très sévère par rapport aux résultats en réalité de ces programmes. Hein.
Oui, effectivement, donc c'est une étude en 2010 qui a montré en fait que les capacités générales liées à ces entraînements ne s'amélioraient pas après 6 semaines d'utilisation. Ouais. Donc c'était donc en fait par contre que chaque capacité cognitive entraînée, elle s'améliorait. Donc c'est relativement semblable au sudoku ou alors au mot croisé. Donc c'est le même genre de donc l'aspect électronique, l'aspect informatique ne joue aucun rôle ici et probablement il y a des entraînements beaucoup plus simples qui ont probablement un effet semblable.
Donc attention quand même à toutes ces promesses et à ce neuromarketing, faire vraiment la part entre les choses intéressantes et puis celles qui sont simplement de l'ordre du business. Améliorer son cerveau, c'est donc cet ouvrage que vous publiez, Michel Van Kuen. Oui, mais pas n'importe comment pour étudier la mémoire, la concentration, l'humeur et le sommeil avec le pouvoir aujourd'hui des neurosciences. Merci beaucoup d'être venu nous en parler aujourd'hui.
Je remercie.
Dans la tête au carré. À bientôt.
France Inter, santé polémique avec le docteur Dominique Dupagne.
Attention, je vais piquer.
Et il va piquer comme tous les jeudis. Bonjour Dominique.
Bonjour Mathieu.
Et c'est l'Académie de médecine, rien que ça, qui a attiré votre attention cette semaine.
Bah oui Mathieu. En fait, c'est à cause du télescopage de deux informations récentes. La première qui a généré pas mal de remous dans les médias, c'est la nomination de l'ex-sénatrice Marie-Thérèse Hermange au comité d'éthique de l'Académie.
Alors quel était le problème? Elle n'avait pas les compétences pour remplir cette fonction?
Oh, les compétences, elle doit les avoir, hein, parce qu'elle a pas mal travaillé sur l'éthique. Non, mais le problème, c'est sa légitimité. Marie-Thérèse Hermange est actuellement mise en examen pour avoir communiqué à un proche de Servier le rapport sénatorial sur le Mediator avant sa publication officielle.
Bon, ça c'est pas terrible.
Je vous le fais pas dire. Mm-hmm. Mais en tout cas, ça laisse de marbre les immortels de la rue Bonaparte. Il faut dire que le bulletin de l'Académie de médecine était encore récemment subventionné par le groupe Servier et que de nombreux académiciens continuent à travailler avec Servier comme s'il ne s'était rien passé. Mm-hmm. Mais j'en viens à la deuxième information récente qui m'a poussé à m'intéresser à mes confrères académiciens. C'est la publication conjointe par l'Académie de médecine et des sciences américaine d'un rapport sur les effets du cannabis sur la santé. La qualité de leur travail est époustouflante. 10 000 travaux scientifiques décortiqués pour identifier les données probables, probantes ou douteuses sur les effets thérapeutiques d'une part, et bien sûr la toxicité à court et à long terme des cannabinoïdes.
Donc ça, c'est les molécules actives contenues dans le cannabis.
Exactement, qui ont des effets différents suivant les diverses molécules. C'est absolument passionnant, surtout quand on sait que Benoît Hamon est favorable à la légalisation du cannabis en France. Or, sur le même sujet, l'Académie de médecine française, cette fois, ne publie que de brefs communiqués faiblement argumentés que l'on pourrait résumer par « pas de ça chez nous », participant à priver les sclérosés en plaque français d'un médicament qui leur est souvent bénéfique. Je trouve ce contraste transatlantique humiliant pour la France.
Alors, quelles sont les missions exactes de l'Académie de médecine, Dominique?
C'est justement la question que je me suis posée, et la réponse est statutaire depuis 2 siècles. L'Académie répond aux demandes du gouvernement sur tout ce qui intéresse la santé publique, et principalement les épidémies, les maladies, les vaccins, les médicaments, les eaux minérales et les cures thermales. Or, il y a bien sûr longtemps que ces missions ont été confiées à des agences spécialisées, aux autorités de santé, agences du médicament, de la sécurité des aliments, agences françaises de santé publique. La question est donc de savoir à quoi sert désormais l'Académie de médecine. Du fait de l'âge moyen de ses membres, qui sont titulaires à vie, il ne faut pas non plus s'attendre à ce qu'ils fassent avancer la science malgré leur carrière, souvent brillante. Et la nomination malheureuse de Marie-Thérèse Hermange montre qu'il n'incarne pas non plus la sagesse des anciens. Il me semble qu'un grand chamboule tout s'impose pour réaffecter les locaux et le budget de l'Académie de médecine vers des objectifs inscrits dans le futur plutôt que de continuer à financer un EHPAD de luxe.
Oui, donc établissement pour personnes âgées.
Hein, pour, et dépendantes.
Pour traduire. Bon, vous n'êtes pas prêt de rentrer à l'Académie de médecine.
Il n'y a pas de généraliste, de toute façon, on est tricard là-bas.
Alors voilà. Merci beaucoup, ça fait du bien en le disant en tout cas, Dominique Dupagne. On peut réécouter votre chronique sur le site de la Tête au Carré, franceinter.fr.
À jeudi.
À la semaine prochaine.